16h à Paris, 14h en temps universel. Merci d'écouter RFI.
Sophie Pouzrat.
À la une, Kiev et Moscou qui se renvoient la balle. Les deux parties s'accusent d'avoir lancé des attaques pendant le cessez-le-feu instauré par Moscou pour les fêtes de Pâques. Pas de trêve à Gaza, en revanche, toujours bombardé par Israël. La défense civile palestinienne évoque 25 morts depuis le début de la journée. La célébration de Pâques ce matin à Rome en présence du pape François. S'il n'a pas célébré la messe pascale, le souverain pontife a donné sa bénédiction aux fidèles. Une apparition très attendue par les croyants. Et à la une également, l'Équateur en alerte maximale. Une semaine après sa réélection, Daniel Noboa est en danger. Un rapport militaire alarmant fait état de possibles attentats contre le président. Le cessez-le-feu décrété hier par Moscou sur le front ukrainien pour les fêtes de Pâques est toujours en vigueur jusqu'à ce soir, 21h, temps universel. Et pourtant, le Kremlin dit avoir repoussé des attaques ukrainiennes sur le terrain, notamment vers les régions russes frontalières de Bryansk, Koursk et Belgorod. Hier soir, c'était le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui accusait la Russie de violer sa propre trêve unilatérale en attaquant plusieurs endroits du front. Ce sont donc les deux camps qui s'accusent mutuellement de ne pas avoir respecté le cessez-le-feu et d'avoir poursuivi les combats, Nicolas Roca.
Oui, Sophie, des frappes russes et l'utilisation de drones kamikazes se poursuit depuis ce matin, a assuré sur X Volodymyr Zelensky ce dimanche. Il souligne toutefois que les sirènes d'alerte prévenant la population des raids aériens n'ont pas retenti dans le ciel ukrainien depuis 10h heure locale ce matin. Au moins 50 assauts et plus de 400 bombardements ont été recensés par les autorités ukrainiennes depuis le début de la trêve samedi. Du côté de Moscou, vous l'avez dit, même discours. Le ministère de la Défense dénonce plus de 900 attaques de drones et des frappes dans la région ukrainienne de Donetsk, contrôlée par la Russie, ainsi que des offensives repoussées dans la nuit. Cette bataille de chiffres traduit l'effet très limité de cette trêve. Volodymyr Zelensky estime que Vladimir Poutine n'avait aucune intention sincère d'avancer vers une fin de guerre et a évoqué la volonté de donner l'impression générale d'un cessez-le-feu. Le président ukrainien a tout de même renouvelé ce dimanche sa proposition de prolonger de 30 jours la trêve qui doit expirer ce soir. Une offre qui reste toujours sans réponse.
Merci beaucoup Nicolas Roca. Autre conflit, celui à Gaza qui se poursuit. Les bombardements israéliens continuent de frapper l'enclave. Ils ont fait 25 morts depuis le début de la journée selon la défense civile palestinienne. Par ailleurs, l'enquête sur une fusillade mortelle contre des secouristes palestiniens en mars dans la bande de Gaza a relevé plusieurs fautes professionnelles et un officier commandant les soldats israéliens, auteur des tirs, sera limogé. C'est en tout cas ce qu'annonce l'armée israélienne, qui ajoute que 6 membres du Hamas figuraient parmi les victimes. En parallèle, au sein de l'État hébreu, Benjamin Netanyahou fait face aux pressions de plus en plus fortes, alors que les familles d'otages réclament un accord pour obtenir le retour des Israéliens retenus à Gaza. Mais la réponse du Premier ministre israélien est claire, il se dit convaincu de pouvoir ramener les otages encore aux mains du Hamas sans, je cite, céder aux diktats du mouvement islamiste palestinien. Ce conflit était dénoncé par le pape François ce dimanche à l'occasion des célébrations de Pâques au Vatican. Il dénonce, je cite, la situation humanitaire dramatique et ignoble à Gaza, tout en mettant en garde contre le climat d'antisémitisme croissant qui se répand dans le monde entier. Le souverain pontife appelle aussi les belligérants à cesser le feu et à la libération des otages dans un discours prononcé par un collaborateur au balcon de la basilique Saint-Pierre de Rome. Le pape François, qui était donc bien présent pour assister aux célébrations de Pâques au Vatican, au grand soulagement des fidèles, car son état de santé fragile laissait planer le doute sur sa présence. Mais le chef des catholiques a bien prononcé sa traditionnelle bénédiction, Urbi et Orbi, c'est-à-dire à la ville et au monde. Et après ça, il s'est offert un bain de foule à bord de sa papa mobile pour le plus grand plaisir des croyants. Je vous en parlais dans les titres. L'Équateur en alerte maximale une semaine après sa réélection. Daniel Noboa est en danger. Un rapport militaire fait état de possibles attentats contre le président. Des tueurs à gages auraient été enrôlés. L'Équateur en proie aux guerres de gangs et au narcotrafic. L'adversaire de Daniel Noboa, en finale de la présidentielle, la candidate de gauche, Luisa González, n'a pas reconnu sa défaite. Aujourd'hui, les Équatoriens craignent un durcissement du régime. À Quito, les précisions d'Éric Sanson.
Dans un pays encore traumatisé par l'assassinat en août 2023 du candidat présidentiel Fernando Villavicencio par des tueurs colombiens, l'activation de tous les protocoles de sécurité des forces armées, de la police et des organismes de renseignement ne rassure pas. C'est le cas du gardien de sécurité, José Gordón, qui souhaiterait cependant voir des preuves plus tangibles qu'un rapport tenu secret.
Les Équatoriens ont peur de sortir. Nous ne vivons pas tranquilles, mais je ne crois pas en cette menace contre le président. C'est du show, du théâtre, alors qu'on devrait se mobiliser contre les trafiquants de drogue qui envahissent l'Équateur.
Selon le politologue Gustavo Hisch, cette menace potentielle pourrait être utilisée pour museler une opposition déjà affaiblie par sa récente défaite électorale.
Il pourra prendre par le cou les coréistes et les opposants en général. Il pourra faire pression sur eux, les forcer à quitter l'espace public pour contrôler l'opposition.
Il y a quelques jours a circulé sur les réseaux sociaux une liste de politiciens et journalistes souvent d'opposition qu'il faudrait contrôler aux frontières. S'agit-il de désinformation peut-être ? Mais les mésaventures cette semaine de Diego Borja, tout récent candidat choriste à la vice-présidence, lorsqu'il a précipitamment quitté le pays vers la Colombie, ne rassurent pas de nombreux opposants. Éric Sanson, Quito, RFI.
En Côte d'Ivoire et au Ghana, les récoltes de cacao sont au plus bas. Les deux premiers pays producteurs de fèves de cacao ne peuvent pas répondre à la demande mondiale, pourtant au plus haut en cette période de Pâques. Cloche, poule, lapin, bien sûr les œufs. En ce dimanche pascal, le chocolat se déguste sous toutes les formes. Mais cette année, les gourmandises vont coûter un peu plus cher, les cours du cacao ont flambé, et c'est la faute aux mauvaises conditions météo en Afrique de l'Ouest, qui fournit 70% des fèves dans le monde, Paul Inglés.
Les cacaoyers apprécient la chaleur jusqu'à un certain point. Selon une étude récemment publiée dans Nature, des expérimentations menées au Brésil et en Indonésie ont montré qu'une température plus basse de 7 degrés pendant la saison chaude pouvait accroître la production de 30%. L'hypothèse avancée est que cela aurait un impact sur la physiologie de la plante. En tout cas, selon d'autres données, au-dessus de 32 degrés, les conditions ne seraient plus optimales. Alors l'association Climate Central a calculé combien de jours dépassaient cette limite en raison du réchauffement climatique. Résultat, en moyenne, lors des 10 dernières années, dans les régions cacaoyères de Côte d'Ivoire, le thermomètre a dépassé les 32 degrés en moyenne 80 jours par an. Sans réchauffement climatique, Climate Central estime qu'il y en aurait eu deux fois moins. Limiter les émissions de gaz à effet de serre est évidemment essentiel. Associer une culture d'arbres qui protège les cacaoyers du soleil peut aussi être efficace, au risque d'augmenter l'humidité, explique l'étude publiée dans Nature. Rappelons que la déforestation liée à la culture du cacao a également un impact sur le climat.
Paul Inglés. La politique migratoire au cœur de la gronde anti-Trump aux États-Unis ce samedi, c'était la deuxième journée de mobilisation contre le président américain en l'espace de deux semaines. Les organisations de défense de la démocratie recensaient plus de 1400 événements survenus ce jour-là. Et des milliers de manifestants ont particulièrement dénoncé la politique anti-immigration de la Maison-Blanche, alors que la Cour suprême a suspendu les expulsions de migrants vénézuéliens. Et le monde de la recherche s'inquiète lui aussi du retour de Donald Trump à la présidence. Beaucoup de chercheurs étrangers qui travaillent aux États-Unis sont particulièrement inquiets pour leur avenir. Alors Emmanuel Macron a décidé de leur tendre la main. Le président français a lancé cette semaine l'initiative Choose France for Science, choisissez la France pour la science en français. L'objectif, faire de la France un leader mondial de la recherche en renforçant l'accueil de ses chercheurs étrangers. Et ça, alors que le budget de l'enseignement supérieur chute depuis de nombreuses années, Alexis Bédu.
La France peut accueillir des centaines de chercheurs. L'ambition est posée par le président français et son gouvernement. Ils mettent en avant cette nouvelle plateforme Choose France for Science qui permet aux universités, écoles et organismes de recherche de demander un cofinancement du gouvernement pour accueillir des chercheurs parce que cela coûte cher, rappelait le ministre de l'enseignement supérieur Philippe Baptiste sur France Info.
Un chercheur qui vient chez nous, c'est difficile de faire une moyenne parce que entre un mathématicien comme moi qui vient avec un crayon ou un chercheur en physique nucléaire, c'est les équipements, les environnements ne sont pas les mêmes. Mais faire venir un chercheur de très bon niveau avec sa petite équipe autour de lui, les ordres de grandeur, c'est quoi ? C'est à peu près 1 million d'euros sur 3 ans, alors, le temps qu'ils viennent s'installer.
Mais pour attirer ces chercheurs, il faut être compétitif. Or, le budget de l'enseignement supérieur par étudiant, une fois l'inflation prise en compte, a baissé de près d'un quart entre 2012 et 2025. Il y a 4 ans, la France ne consacrait à la recherche et développement que 2,22% de son produit intérieur brut. On est loin des États-Unis, on est loin d'autres pays européens également, comme le rappelle l'universitaire Théo Besson, en Allemagne, Belgique ou Suède, les investissements dans la recherche dépassent les 3% du PIB.
Les explications d'Alexis Béduet. C'est ainsi que se termine ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Il est 16h et presque 10 minutes à Paris, 14h10, en temps universel.